Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, la société civile de la chefferie de Bahema Bagourou dans le territoire de Djougou se félicite du retour progressif de la sécurité dans cette entité coutumière de la province de l'Ituri. Cette structure citoyenne demande aux autorités de capitaliser cet acquis qui est le fruit des sensibilisations menées par les acteurs humanitaires dans la recherche d'une paix durable. Une nouvelle audience a eu lieu hier vendredi à Kinshasa, à la prison Super Kamakala, dans les procès du journaliste Stani Boudjakera. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a entamé l'instruction de l'affaire sur le fond. L'invité de ce journal est l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le major Hassan Keira parle des opérations menées par la force de la MONUSCO durant cette semaine en appui à l'armée congolaise au Nord Kivu et en Ituri. Merci d'être avec nous et bienvenue à l'écoute de ce journal. Mesdames, messieurs, bonjour. La société civile de la chefferie de Bahema Bagourou dans le territoire de Djougou se félicite du retour progressif de la sécurité dans cette entité coutumière de la province de l'Ituri. Son coordonnateur affirme que cette accalmie permet le rapprochement entre les communautés de groupement Lopa, Jako, Ndaoura et Bagourou et celui de Sesele dans le secteur de Walendu-Djatsi. Les habitants de ces entités fréquentent les mêmes marchés et une même carrière d'exploitation d'or. Cette structure citoyenne demande aux autorités de capitaliser cet acquis qui est le fruit des sensibilisations menées par les acteurs humanitaires dans la recherche d'une paix durable dans la région. Des détails avec Jean-Claude Lokidili.
C'est depuis plus de deux mois que les habitants de Sesele se rendent au marché de Lopa et de Gina pour notamment s'approvisionner en produits vivriers tels que les concettes de manioc ou encore des légumes. C'est qu'il y a un effet d'entraînement car des populations des groupements Lopa et Jako Ndaoura se rendent chaque jour au groupement Sesele pour y exploiter de l'or dans la carrière morgue. D'autres personnes, notamment des femmes, fréquentent les marchés de Yutubidona à Matete qui se trouvent dans la même entité coutumière. Cette cohabitation pacifique s'observe depuis la campagne de sensibilisation menée par l'ONG Action pour la paix et la concorde en juillet dernier. Gédéon Dino est le responsable de la société civile dans la chefferie de Bahema Bagourou.
Là, on voit qu'on est déjà dans la cohabitation pacifique. Les jeunes se fréquentent et là, je vois que déjà nous sommes déjà en voie de pacification. C'est l'ONG APC qui a vraiment sensibilisé la communauté et après cette sensibilisation, vraiment, ils ont vu c'est beau de se fréquenter entre eux.
Ce rapprochement entre les communautés s'observe également dans d'autres entités, notamment dans la chefferie des Bahema Nord et Walendu-Tati et Piti, où les populations fréquentent ensemble les marchés de Sadiboko et Dzuda Bunya. Jean-Claude Loki, Dile. Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, un dialogue dénommé de paix s'est tenu jeudi dernier à Mangourijipa, chef-lieu du secteur de Bapéré. Conduit par le chef de cette entité extra-coutumière, ces échanges ont réuni entre autres le commandant des FARDC du ressort, le président de la synergie des groupes armés, les leaders communautaires locaux et quelques chefs miliciens, notamment l'UPLC et le FPP-AP. Le président de la société civile du secteur de Bapéré se félicite du résultat de ces assises qui auront certainement un impact positif sur le plan économique. Samuel Kakule Kageni l'a dit au téléphone de Sadiki Aboubakar.
Ça fait bon nombre de temps que les percepteurs des taxes de l'État n'arrivent pas dans les agglomérations comme Bandoulou, Kambaou et vers Ombole et Isiangi Mabouo. On devrait comprendre que le budget est réalisé à 18%, à 26% depuis que nos frères Wazalin ont occupé des grandes agglomérations qui devraient générer des recettes de l'État dans les trésors publics. État congolais, après un débat, ils ont compris que les percepteurs, les agents du secteur doivent atteindre ces différents milliers parce qu'avec les taxes, une fois perçues, une fois entrées dans les trésors publics, devraient contribuer au développement et à la sécurité de notre entité. À part ça, nous avons compris qu'il y a la multiplicité des taxes dans les secteurs. Il y a des taxes de l'État, il y a aussi les taxes qui Azalindo s'y amène. Cela devient une tracasserie à la population. Quelque chose qui, en tout cas, pèse sur cette paisible population. Et les risques même de quitter les milliers et d'aller se réfugier ailleurs.
Des militants du mouvement citoyen Filimbi ont manifesté hier vendredi à Kinshasa devant la résidence de l'ambassadeur américain en RDC. Ils sont venus déposer la lettre de plaidoirie dans laquelle ils demandent l'implication et l'accompagnement des États-Unis pour sortir le Congo de cette guerre que lui mène le Rwanda à travers le M23. Ils demandent aussi aux États-Unis de se démarquer en montrant clairement qu'ils ne sont pas derrière le Rwanda dans cette action de déstabilisation de la RDC. Jériel Kassia, porte-parole du mouvement citoyen Filimbi, est au micro de Merveille Hassani.
Madame l'ambassadrice, le peuple congolais essaie à titre que nous citoyens des divers horizons et des différentes couches, nous vous écrivons cette lettre ouverte pour exprimer notre profonde préoccupation face aux positions incohérentes adoptées par votre pays à l'égard de la République démocratique du Congo. Face à l'inertie de la communauté internationale présente au Congo avec une mission des Nations Unies depuis plus de 20 ans sans apporter aucun résultat à notre crise sécuritaire, nous, population, en arrivons à conclure qu'il y aurait une certaine complicité tacite de nos agresseurs sans résultat probant dans la recherche des voies et moyens pouvant conquérir au rétablissement de la paix effective en RDC en général et dans sa partie orientale en particulier. Il est donc impératif dès lors que le peuple longtemps abandonné et opprimé de la RDC puisse s'élever et combattre pour sa survie ainsi que pour la préservation du territoire national selon les prescrits constitutionnels des articles 16, 63 et 64.
En bref, une nouvelle audience a eu lieu hier vendredi à la prison Seperka Makala de Kinshasa dans le procès du journaliste Stanny Boudjakera. Le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a entamé l'instruction de l'affaire sur le fond. La prévention de fabrication du sceau de l'Agence nationale des renseignements, ANR, était particulièrement évoquée. Pour étayer cet argumentaire, la défense a formulé trois principales demandes, dont la réquisition de l'ANR pour apporter le sceau original qui figure sur le document qui est à la base de l'arrestation de Stanny Boudjakera. Le tribunal n'a pas répondu à ces trois demandes au cours de l'audience d'hier vendredi. La défense promet d'y revenir à la prochaine audience prévue le 3 novembre prochain. En bref, encore, la sous-direction police et pompiers de l'ONATRA du Congo central a mis la main jeudi dernier sur deux malfrats qui volent dans les entrepôts du port international de Matadi, au Congo central. Selon le commandant de cette structure, Clarisse Mampasi Malengi, ces voleurs ont été pris la main dans les sacs à l'issue d'une opération de traque menée notamment au port par la dite police. Et ce, après le constat à maintes reprises du vol de marchandises des opérateurs économiques dans les entrepôts. Clarisse Mampasi Malengi souhaite que ces présumés voleurs reçoivent une sanction exemplaire. Et puis, Justicia Asbel tire la sonnette d'alarme au sujet des messages d'incitation à la violence et à la haine tribale distillés ces derniers temps sur les réseaux sociaux. D'après cette ONG de défense des droits de l'homme à Lubumbashi, certains jeunes se réclamant de l'UDPS tiennent des rassemblements politiques en plein centre-ville devant un établissement commercial, obligeant son propriétaire à ne pas ouvrir jusqu'à la fin de leur manifestation. En cas de réaction, ils s'en prennent à lui et le menacent de mort. Dans son communiqué de presse publié jeudi dernier, Justicia Asbel appelle la mairie, la police et la justice à agir avant qu'il ne soit trop tard. On écoute Timothée Mbouya, président national de Justicia Asbel, au micro de Jean Grandou.
On a vu des militants étiquetés UDPS occuper l'espace d'un opérateur économique bien connu dans la ville de Lubumbashi, proférant des menaces à son encontre au cas où il arrivait que la police intervienne pour interdire le rassemblement de ces gens de l'UDPS. Ce qui est aussi regrettable, c'est que à la suite de cette occupation illégale, des messages d'incitation à la violence et à la haine tribale sont partagés suffisamment dans les réseaux sociaux et il est malheureusement à craindre que si l'autorité ne prend des mesures, qu'il y ait des affrontements intercommunautaires. Justicia recommande au procureur de la République de mettre tout le mouvement en œuvre pour faire poursuivre toutes ces personnes qui sont d'ailleurs identifiées comme étant auteurs de ces troubles de jouissance des biens appartenant à des particuliers. Justicia invite également la mairie à mettre tout en œuvre pour interdire les réunions politiques sur des lieux appartenant à des privés. Justicia demande également à la police de ne pas être complaisante, mais de s'adonner à la mission régalienne de protéger les personnes et leurs biens.
Retenez que le maire adjoint de Lubumbashi est descendu sur le terrain jeudi dernier pour s'enquérir de la situation et à l'occasion, quelques jeunes ont été interpellés. Joyce Tunda a appelé tout le monde à l'ordre et a laissé l'opérateur économique exercer ses activités. Le volume des échanges commerciaux entre la RDC et la Grande-Bretagne est estimé à plus ou moins 300 millions de dollars américains. C'est encore bas selon le ministre de l'Industrie Julien Paluku pour qui le commerce entre les deux pays doit atteindre les milliards de dollars. Il a dit jeudi dernier à Londres, aux côtés de Vital Kamerhe, vice-premier ministre en charge de l'économie, devant des officiels britanniques. C'était en marge du Forum économique Royaume-Uni-Grande-Bretagne qui s'est tenu cette semaine dans la capitale britannique. Julien Paloukou, dans cet extrait que nous propose Cynthia Bachizina Bizana.
Ça a été l'occasion de transmettre les messages du président Félix Tshisekedi, message d'ouverture des investissements à tous les pays du monde qui veulent bien partager la prospérité avec nous. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans la transition énergétique. Et à l'heure actuelle, le chef de l'État a inventé un slogan en disant clairement que la RDC est un pays solution. Et donc nous avons partagé ce slogan en lui donnant un contenu particulièrement lorsqu'il s'agit de nos minéraux stratégiques, à savoir le cobalt, le lithium, le manganèse, le nickel, le cuivre et tous les autres, pour dire que désormais, le chef de l'État tient à la transformation locale de nos ressources pour leur donner une valeur ajoutée et ainsi et permettre à ce que nous puissions suffisamment gagner et chasser la pauvreté. Et avec les parlementaires britanniques et M. Lord Popat, qui était le chairperson, nous avons évalué le volume du commerce entre nous et la Grande-Bretagne. Il est très très bas parce qu'il est situé autour des 240 millions de livres sterling, ce qui avoisine les 300 millions de dollars américains. Et donc, on a convenu avec la Grande-Bretagne que nous devons élever le volume du commerce entre nous et le Royaume-Uni à hauteur de 1 milliard de dollars américains.
Retour au Nord Kivu, où le secteur du café et cacao reste confronté à des défis énormes liés, entre autres, à la production et à la régulation. C'est ce qu'on peut retenir de la journée d'échange et de dégustation organisée hier vendredi à Goma par l'Office national de production agricole au Congo, ONAPAC. C'était en marge de la journée internationale du café célébrée chaque 1er octobre. Plusieurs intervenants étatiques et non étatiques se sont succédés pour expliquer les efforts entrepris pour promouvoir et accompagner ce secteur agricole. Selon les réseaux des coopératives des producteurs de café cacao en RDC, les défis empêchent ce secteur d'être compétitif sur le marché international. Gilbert Makelele, président du conseil d'administration de ces réseaux, parle notamment de la loi agricole qui tarde à être mise en application et de l'absence d'une banque agricole. Conséquence, on note un déficit de production et d'exportation. Il explique au micro de Sifa Maguru.
Le premier défi, c'est d'abord la loi agricole en elle-même. D'abord, la loi agricole, elle a été promulguée depuis 2010. 13 ans après, nous n'avons toujours pas eu toutes les mesures d'application de la loi agricole. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est l'accès à la terre. Les 13 500 tonnes que nous avons produits et exportées, c'est produit par les petits producteurs. Mais nous n'avons pas accès à la terre. Toute la terre est entre les mains des politiques. Donc il faudrait que les politiques puissent libérer la terre afin que nous puissions accéder à la terre pour que nous puissions produire. Les petits producteurs ici chez nous ont 0,5 à 1 hectare le maximum. Mais les petits producteurs au Brésil ont un minimum de 20 hectares. Il y a l'autre défi majeur, c'est les routes nationales, les routes provinciales, les routes des dessertes agricoles ne sont pas asphaltées. L'autre défi majeur, c'est la banque de crédit agricole. Le gouvernement nous a promis de créer la banque de crédit agricole. Et l'autre défi particulier, c'est l'insécurité à Rutshuru. Vous voyez, nos producteurs de Rutshuru, de Masisi, de Nyiragongo, ils ont tellement du mal à évacuer les cafés.
Notez que pour l'année écoulée, la RDC a exporté 13 500 tonnes de café et 48 000 tonnes de cacao. Une très faible production qui devrait interpeller tous les acteurs, ont-ils affirmé. Dans la province du Maniema, la commission d'intégrité et de médiation électorale, CIMÉ Maniema, déplore la campagne précoce des acteurs politiques en violation de la loi électorale. Le président provincial de cette structure appelle les uns et les autres au respect des lois du pays. Faisant d'une pierre deux coups, Bishop Félix Pogno demande aux belligérants du sud Maniema à déposer les armes pour favoriser un climat de paix en cette période préélectorale. Il encourage en même temps le nouveau commissaire provincial de la PNC pour la restauration de la paix dans la ville de Kindu en particulier et dans la province du Maniema en général. On écoute Félix Pogno dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
La CIMÉ Maniema, commission d'intégrité et de médiation électorale, saisit cette opportunité pour interpeller tous les acteurs politiques, c'est-à-dire les candidats, à tous les niveaux de scrutin, au respect strict de la loi électorale, avant, pendant et après les élections. Pour cela, il faudra éviter 1. La campagne électorale anticipée comme nous l'observons actuellement. Ceci en violation totale de la loi électorale. 2. Les actes de provocation, menaces, diffamation, la manipulation de la jeunesse dans les groupes communément appelés bases, en leur fournissant des stupéfiants, des drogues ou l'argent. 3. La CIME Maniema interpelle aussi toute la population du Maniema en général et celle du territoire de Kasongo et Kabambare, en particulier à cultiver le climat de paix, la cohésion sociale, le pardon mutuel et la réconciliation, surtout d'éviter d'être manipulé.
Actualité internationale.
L'objectif d'un départ de 1400 soldats français du Niger au 31 décembre prochain, comme annoncé fin septembre par le président Emmanuel Macron, sera tenu, a déclaré vendredi à Niamey le général Éric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel. Et puis, plus de 4000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre à Gaza et Israël continue de bombarder sans relâche l'enclave palestinienne après l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre et qui a coûté la vie à plus de 1400 Israéliens. L'État hébreu avait prévenu que sa vengeance serait terrible et il est en train de tenir parole. Mais sa guerre contre le Hamas affecte en premier lieu les 2,3 millions d'habitants de Gaza, une population démunie qui tente malgré tout de survivre.
L'invité.
L'invité de ce journal est l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le major Hassan Keïra parle des opérations menées par la force de la MONUSCO durant cette semaine en appui à l'armée congolaise au Nord Kivu et en Ituri notamment. Il s'entretient à Goma avec Bernard Denyangui.
Major Hassan Keïra, bonjour.
Bonjour Bernardin et merci de me recevoir.
Merci. Nous allons commencer par le Nord Kivu, où la situation est toujours critique, puisqu'il y a toujours des affrontements qui se poursuivent entre le groupe des armées et le M23. Quelles analyses vous avez par rapport à ça?
Oui, effectivement, une série de combats entre le M23 et une coalition de groupes armés s'est produite du 13 au 15 octobre dernier, causant un massif déplacement de la population vers Kichanga et Kimbumba. Du coup, un flux important des personnes déplacées internes est attendu dans le futur. De ce fait, la MONUSCO a déployé des troupes du bataillon uruguay à Kichanga pour renforcer la capacité de combat du bataillon marocain de déploiement rapide, qui affronte cette crise humanitaire depuis des semaines. De plus, le 16 octobre 2023, des coups de feu ont été entendus de la base permanente de commandant provenant du village de Bogui. Une patrouille de la MONUSCO a été envoyée vers ce village pour protéger les civils. En atteignant le site de l'incident, la patrouille a rencontré la police militaire des FARDC qui menait une patrouille le long de Bouki Central Commandant. Les informations reçues indiquent que les coups de feu provenaient des groupes armés locales FPIC. Aucune victime ni dommage n'a été signalé, que ce soit au niveau des personnes ou des installations. Et les conditions de sécurité dans la zone de commandant étaient calmes et les civils se cachaient à l'intérieur de leur maison après avoir entendu des coups de feu. La force a coordonné avec les autorités locales et les FARDC le suivi de l'incident afin de contrôler la situation sécuritaire dans la zone. La patrouille de la MONUSCO a continué à dominer la zone de commandant Bougui et les zones avoisinantes afin de garantir la sécurité des personnes.
Oui, cette dernière précision, c'était pour l'Ituri, mais revenons encore au Nord Kivu, où la brigade d'intervention de la force a lancé, en collaboration avec le FARDC, une opération appelée Ufulu. Quel est le but de cette opération et quels détails pouvez-vous nous en fournir à propos?
L'opération Ufulu, conduite conjointement avec les FARDC dans les régions générales de Mamové et Samboko en octobre 2023 a pour objectif d'anéantir la liberté du mouvement et d'action des groupes armés dans cette zone. Cette mission a été conduite par la force de réaction rapide népalaise et son homologue tanzanienne. Les deux forces de maintien de la paix ont renforcé leur présence sur le terrain avec des patrouilles à longue distance et des patrouilles du jour et de nuit. Cette présence a pu empêcher les groupes armés d'attaquer la population pacifique, qui peut désormais se consacrer à ses activités agricoles. Et le 14 octobre 2023, le Tanzbat a envoyé une patrouille d'intervention au village de Moussoukou après avoir repéré des individus armés qui se dirigeaient vers le village. Cette opération a été conduite dans le but de restreindre à ces hommes armés la liberté de mouvement et d'action. L'équipe de patrouille en coordination avec les FARDC au village de Moussoukou a continué la domination de la zone par des patrouilles robustes pour assurer la protection des civils.
Et nous allons terminer peut-être par le Sud Kivu, où le service antimine des Nations Unies a procédé à l'élimination d'engins explosifs. Comment cela s'est-il passé?
Oui, c'était le 8 octobre 2023. Les habitants de Kianga, qui se situe à environ 43 km sud-ouest de la base permanente de Sangay, ont informé le commandant de cette base de la présence d'un engin explosif dans le champ de Kianga et deux engins non explosés dans les champs de Molongi et Kigoma. Le service anti-mine des Nations Unies a été contacté sur le champ pour l'élimination de ces engins. Le commandant de la base de Saint-Gay a immédiatement contacté le bataillon Fardessé. Il lui est conseillé de boucler le site des explosifs afin d'en éloigner la population locale.
Major Assad Kira, merci.
Je vous remercie.
C'était notre invité, l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le major Hassan Keïra, s'entretenait à Goma avec Bernard Denyangui. Fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung et mis en onde par Jean-Claude Siala. À vous, infiniment merci de l'avoir écouté.